RS Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise Metron et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, RSE Radio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, je suis toujours en compagnie de Vincent Siandra. Bonjour Vincent.
Bonjour Billy.
PDG de Metron et à vos côtés, Timothée Kellard. Bonjour Timothée.
Bonjour.
Co-fondateur d'Ecodef. Et aujourd'hui, nous accueillons Thomas Burette, directeur des engagements RSE du développement immobilier international, des travaux et frais généraux de courir. Mais quelle carte de visite. Bonjour Thomas.
Bonjour Billy, bonjour à tous. Je suis ravi de venir frotter mon cerveau avec le vôtre aujourd'hui.
Alors, on va se le frotter parce que vous avez eu une idée extraordinaire à 8 ans. Vous aviez un métier qui va ravir toutes les générations, y compris celles qui arriveront dans quelques années. Vous aviez trouvé le métier idéal, je vous cite, PDG de jouets. Maître du monde, quoi. C'est un peu ça.
Un enfant qui était pragmatique et qui avait envie de jouer très souvent. Donc
ouais, mais l'enfant, il a quand même pas mal étudié. Hein. Il a fait un bac ES et ensuite vous voilà parti pour une prépa à Paris et ensuite l'EDEC. L'EDEC, c'est important car cette école vous a donné l'occasion, et là ça devient assez magique, d'étudier entre autres à New York, Saint-Pétersbourg et également Pékin. Racontez-moi, c'était dans quel ordre les pays et à quelle occasion pendant vos études?
Alors, quand j'ai rejoint l'EDEC, j'avais la possibilité de faire une filière qui était dite internationale et qui permettait à chaque trimestre de changer de continent. Et je trouvais que cette approche était très pertinente pour un jeune qui n'était jamais sorti des frontières de la France, qui n'avait jamais pris l'avion et qui adore apprendre, apprendre à découvrir.
Ça vous a pas donné le vertige quand même? C'est rapide tous les trimestres, hein?
C'était aussi le but, effectivement, d'être plongé dans des univers très différents et ça permet de développer son adaptabilité et d'ouvrir ses yeux en grand pour admirer et apprendre.
Les États-Unis, la Russie, la Chine, trois pays tellement différents. Lequel vous a le plus motivé?
Je dirais que celui qui m'a le plus marqué, c'est la Chine. Pourquoi? C'était en 2008. J'avais donc peut-être un a priori un peu occidental sur ce qu'on peut voir et entendre dans nos médias. Et puis, la claque se fait dès qu'on arrive, dès qu'on pose le pied, et qu'on arrive dans une ville qui fait 30 millions, qui compte 30 millions d'habitants, qui construit un aéroport tous les 3 mois et un centre commercial toutes les 2 semaines.
Donc là, c'est vraiment la culture qui l'emporte. Une culture qu'on pouvait penser, quand on est européen, un peu passéiste, mais au contraire, tournée vers le futur. Si je fais les comptes, à cette époque, après ces 3 trimestres dans des pays différents, vous avez en poche un master en management et un second master en conseil. Premier job, le vrai, le réel, avec la fiche de paye et le chèque à la fin du mois.
Alors le tout premier, c'était pendant mes études, parce qu'il fallait les financer. Et en faisant une école de commerce, malgré avoir effectué une prépa en amont, il fallait bien régler les échéances. Donc j'étais réceptionniste dans des hôtels, j'ai fait serveur dans des restaurants. J'ai même fait les 3-8 à l'usine.
Wow.
Donc c'est aussi, c'est une belle école de la vie. Ça nous permet, en toute humilité, d'apprendre de nombreux métiers.
Après avoir financé vos études, on va vous retrouver dans une entreprise spécialisée dans la gestion des portefeuilles des centres commerciaux, qui s'appelait Unibail Rodamco, c'est bien ça?
Tout à fait.
Ensuite, chez Casino, là, on continue l'aventure, mais là, c'était pour la création d'une foncière. Vous êtes directeur commercial, et au bout d'un an, vous quittez tout. Et vous partez réfléchir en Nouvelle-Zélande, et votre compagnon de réflexion s'appelle Sacado.bar. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y a eu un burn-out très jeune?
Même pas.
On en voit tout balader comme ça.
J'avais beaucoup appris et je voulais continuer d'apprendre. Et en quittant Unibail pour rejoindre Casino, il y avait un aspect de création. Et une fois qu'on avait créé, c'était de la gestion. Et j'avais l'impression de moins apprendre. J'avais des rêves, et je continue d'en avoir, et les voyages nous permettent en partie de les réaliser. Partir en sac à dos à l'autre bout du monde, c'est aussi un défi personnel. Aller découvrir un nouveau continent, l'Océanie, que je ne connaissais pas, c'est encore une nouvelle manière d'apprendre.
Mais en tous les cas, ça vous a particulièrement réussi, puisque après votre tête-à-tête avec votre sac à dos en Nouvelle-Zélande, retour en France, et là, vous arrivez chez Courir, et vous dites que c'est le fruit d'une rencontre bienveillante. C'est quoi cette rencontre ? C'est avec qui ?
Avant de partir à l'autre bout du monde, j'avais créé un cabinet de conseil en immobilier. Et une des missions que j'ai réalisées m'a permis de rencontrer le CEO du groupe Courir, qui s'appelle Pierre Chambaudry. Et ça a été un coup de foudre professionnel, quelqu'un de bienveillant, qui avait envie de transmettre. Et naturellement, lorsqu'il m'a rappelé quelques mois plus tard, c'était évident, il fallait que je rejoigne ce groupe.
Et en plus, vous avez bien réfléchi pendant ce voyage et c'était plus clair dans votre tête. Vincent, à vous.
Alors, j'ai vu que Courir était maintenant une entreprise qui vole de ses propres ailes depuis 2019. Donc, c'est extrêmement récent. Ce qui fait qu'en termes de RSE, j'imagine que vous avez une liberté quasi totale. C'est-à-dire qu'il y a tout à faire. Et en même temps, ça va être un challenge immense. Par où commencer ?
Très bon point. Alors, on n'a pas attendu de voler de nos propres ailes pour faire de la RSE. On en faisait depuis des années sans le savoir, puisque les combats autour de l'inclusion, de la diversité, c'est dans l'ADN de Courir depuis toujours. Pour autant, avant de faire des choix, il faut se connaître. D'où l'importance de se cartographier. On a fait appel à une société extérieure, un cabinet de conseil, qui est venu auditer Courir sur 360% de la RSE. Et par-dessus, on a réalisé un bilan carbone. Une fois qu'on avait cette cartographie, ça nous permettait de choisir nos combats prioritaires.
Et alors du coup, je rebondis, c'est quoi votre combat prioritaire, le premier ? Celui qu'il faut mener à terme coûte que coûte ?
Cette question est très difficile parce qu'il y a beaucoup de combats à mener. Et la RSE, le climat, nous montre à quel point tout est entremêlé, à quel point les frontières sont poreuses. Ce qui est certain chez Courir, c'est que nous avons fait des choix, et ces choix nous ont amenés à mettre en place 4 piliers. Le premier a été donc au nom des femmes, qui est dans l'ADN de Courir. Il s'agit de valoriser et de soutenir la femme, qu'elle soit au sein du groupe Courir. Un chiffre, pour vous donner un exemple, 55% des managers chez Courir sont des femmes. Mais aussi à l'extérieur du groupe, où nous avons réalisé un certain nombre de mécénats, à titre d'exemple avec Casa 93, qui est un projet social et éducatif, et qui a pour but de proposer une formation de mode qui est gratuite, et donc Courir est mécène. Un deuxième pilier est évident, autour du climat et de la biodiversité. Nous avons pris l'engagement d'ici 2030 de baisser de 40% notre bilan carbone. Mais au-delà de cela, sur la biodiversité, pour agir, il faut à nouveau bien s'entourer. Nous avons fait le choix de réaliser un partenariat avec The Sea Cleaners, qui est une association à but non lucratif. Et comment ce partenariat se déroule ? Nous avons fait une donation volontaire de plusieurs centaines de milliers d'euros. Pour rappel, cette association a pour but de nettoyer le macroplastique des océans. On déroule le partenariat également d'une autre manière. Nous avons lancé une campagne de micro-dons sur l'ensemble de nos points de vente dans tous les pays d'Europe dans lesquels nous opérons, jusqu'au 8 juin, qui sera la journée mondiale des océans. Une collecte donc auprès de nos clients. Et bien sûr, il a fallu former en amont nos collaborateurs.
Mais on a les quatre piliers, là ? Je ne les ai pas tous comptés. Oui ? Thomas, vous me confirmez ?
Il y en a un quatrième.
Il y en a un quatrième, je savais bien qu'il en manquait un. Je vous écoute.
Nous sommes distributeurs de sneakers. Et notre but en tant que distributeur, c'est de mettre en valeur aussi les produits qui sont éco-conçus. Nous avons donc créé une notation à travers 6 macarons qui viennent donc valoriser auprès de nos consommateurs et nos collaborateurs les produits qui sont éco-conçus. À titre d'exemple, une sneakers qui a des matières recyclées à hauteur minimum de 20%, ou qui contient du coton bio à 100%, ou qui est issu d'un atelier engagé dans ses pratiques sociales, ou encore des sneakers qui peuvent être véganes.
Voilà, Timothée, question.
Donc cette dernière approche, j'ai cru comprendre qu'elle s'appelait Green Spirit, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Et du coup, la vocation de Green Spirit, c'est quoi ? C'est d'éduquer les jeunes à consommer de manière plus efficacement, de manière plus responsable ? C'est les éduquer à moins consommer ?
Green Spirit nous permet d'encapsuler l'ensemble de nos engagements RSE à travers les quatre piliers. Celui que vous évoquez sur la consommation est évidemment un des quatre. Et sur le point des produits, il s'agit effectivement de valoriser ceux qui sont toujours plus éco-conçus pour ensuite travailler avec les marques partenaires du groupe Courir pour travailler à des nouveaux modèles qui, je l'espère, seront toujours plus respectueux de l'environnement et des femmes et des hommes.
Et alors, question de curiosité, mais en ordre de grandeur, ça représente quel pourcentage aujourd'hui de produits vendus par une marque comme Courir ou d'autres, hein, d'ailleurs ?
Chez Courir, ça représente plus de 3,5 millions de paires vendues.
Et j'ai cru comprendre que vous l'avez dit avec votre sac à dos, une passion pour la nature, en tout cas l'exotisme. Est-ce que vous avez réussi ou est-ce que vous arrivez à faire un lien entre cette passion et la politique RSE du groupe ?
Complètement, il y a plusieurs titres. Le premier, on a parlé de sneakers, de vente de sneakers. Il s'agit donc de permettre en amont l'éco-conception, mais aussi en aval, la recyclabilité. C'est pourquoi nous investissons auprès d'industriels pour créer demain des outils qui permettront d'upcycler les sneakers. Et ça, il y a encore tout à faire sur ce sujet. Autre point, on a parlé de climat et de biodiversité. Quand on noue des partenariats avec The Sea Cleaners qui ont pour but de retirer tout le macroplastique des océans, oui, il y a un lien évident avec la nature.
Mmh. Si on revient sur votre dernière interrogation et votre dernière réponse, Thomas, c'est formidable, mais on sait que le temps industriel est beaucoup plus long que le temps du retail. Donc oui, les entreprises sont intéressées pour tout recycler, mais c'est pas pour demain, quoi, en gros. Quand je dis demain, peut-être pour après-demain.
C'est pour ça qu'on travaille avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'humilité et sans complaisance.
Mmh.
En interne, on n'a aucune complaisance envers nous-mêmes. Et donc, on essaye absolument de trouver toutes les solutions à court terme. Maintenant, évidemment, ça va demander un peu de temps.
Ça va demander un peu de temps. Merci pour vos questions, messieurs. On va terminer sur une passion, j'allais dire, de saison. Roland-Garros va ouvrir ses portes. C'est un tournoi important. Mon cher Thomas, vous avez joué pendant 7 ans au tennis. T'es un très bon joueur. Vous adoriez ça. Quel est votre joueur préféré ?
Je reste un amoureux de Federer.
Mmh.
Qui, je crois, est sur le déclin, malheureusement.
Ah il n'est pas sur le déclin, mais à l'âge qu'il a, il ne peut pas avoir la vitalité que vous auriez, vous, à courir après une balle. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a encore des talents qui vont arriver, ou c'est une vague successive ? Parce qu'on parle aussi de Nadal, mais Nadal, ça fait 15 ans maintenant qu'il est jeune et qu'il surprend. C'est terminé, c'est un nouveau cycle qui arrive ?
Oui, je pense que c'est un éternel recommencement, et encore une fois... On attend des talents dans tous les domaines, autant dans la RSE, dans la technique, dans l'industrie, que dans le sport.
Alors, on va terminer dans vos plaisirs, dans vos passions, avec deux couleurs, l'ocre pour la terre de Roland-Garros, on vient d'en parler, avec ce tournoi qui va s'ouvrir. Et puis, quand vous étiez môme, le maillot de foot, il était bleu et blanc. Bleu ciel et blanc, pour être précise.
Tout à fait, j'étais biberonné à l'Olympique de Marseille.
Oh là là, et le PSG est une mauvaise équipe.
Ce ne sont pas les meilleurs amis.
Voilà, merci en tous les cas Thomas d'être venu nous parler et de courir, du sport, de la nature et de vos passions, ainsi que de votre métier à notre micro. Merci à Vincent et Timothée pour leurs questions. Fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Netron et le groupe EPSA.